dans le cadre de la programmation transversale de Radio Panique, nous allons délier les langues avec une dose de féminisme, en questionnant la langue française, ses règles grammaticales sexistes, ses formes désuètes, ses noms qui désignent des métiers visiblement genrés. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais demander à nos invités de se présenter.
Oui, donc moi je m'appelle Hélène de Troux, je fais partie de l'équipe d'Elles en parlent encore.
Bon, moi, Stéphanie Philosophe, je ne fais pas partie d'une équipe. Je ne sais pas ce que je vais ajouter. Je suis féministe depuis longtemps à l'Université des femmes, avant ça à la Maison des femmes. Nous, on a même fait tout un groupe, une radio libre qui s'appelait Clette Mariette, il y a bien longtemps. Voilà ce que je vais dire pour le moment, quoi. Féministe historique, comme on dit.
Bonjour, moi c'est Alexandra, donc je fais aussi partie de l'équipe d'Elles en parlent encore. Je suis aussi auteure, j'écris, donc voilà.
Et moi, je m'appelle Nicole de Wandre, j'ai une formation d'ingénieur et puis de philosophe. Et à l'inverse de Fanny Philosophe, je suis devenue féministe plutôt au tournant des années 40. J'en ai maintenant un peu plus de 50. Mais j'ai connu ces deux états, celui où on est dans le gender blind et puis après celui du féminisme.
Merci beaucoup et nous allons directement entrer dans le vif du sujet en abordant la question des places respectives du féminin et du masculin dans la langue française. Parce que malgré que beaucoup de personnes considèrent que, au moins dans les sociétés occidentales, bien, beaucoup de personnes qui considèrent que le combat du féminisme, il est gagné et que donc on pourrait à présent se concentrer sur d'autres luttes. Mais évidemment, on constate au quotidien que ce n'est pas du tout le cas et que les rôles des uns et des autres restent encore très ancrés dans les mentalités, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit homme ou femme. L'inégalité, donc, elle persiste. Et alors, pourquoi ne pas explorer le rôle que la langue peut bien jouer là-dedans ? Dans la langue française, en effet, le masculin continue de l'emporter. Fanny, quelle influence cela peut-il avoir sur nos représentations mentales et sociales ?
Oui, d'abord, je voudrais dire que le masculin l'emporte au pluriel. Donc, au singulier, chacun retrouve sa place. Donc, ça, c'est important. Et je pense que, justement, à partir de ce livre « Les nouveaux mots du pouvoir » que j'avais lu, je me suis dit, tiens, il y a un mot du pouvoir qui n'est pas répertorié là et qui s'appelle il, I-L-S. Parce que ce il cache les L, absolument, dans un texte de mixité. Ça veut dire que quand on dit il, les hommes se disent j'y suis, les femmes se disent j'y suis-je. Donc ça, c'est quand même déjà un aspect très important du sexisme de la langue française, rien qu'avec ce il. Qui se continue évidemment chaque fois qu'on est au masculin, qu'on est au pluriel. Bon, j'ai vu dans le programme qu'une autre parmi nous va aller en parler, mais le masculin domine. Et je dois dire que pour s'amuser, on dit quand même aussi pas seulement en langue française. Donc c'est assez général cette domination. Donc, et la langue l'accentue et invisibilise les femmes. De façon assez générale, donc on ne sait pas qu'elles existent. Pour moi, je crois que pour avoir un argument, après avoir beaucoup pensé là-autour, je crois que l'argument, et surtout vis-à-vis des associations progressistes, qui se veulent progressistes, et qui nous oublient aussi bien que tous les autres, qui ne le seraient moins, c'est que finalement, c'est que quand on veut revendiquer quelque chose, ou même montrer le monde est deux fois plus grand avec des femmes. Et ça me paraît vraiment un argument tout à fait important et que j'emploie même souvent quand j'ai ma petite rage devant un texte qu'on m'envoie et qu'on me dit « bon, il m'arrive souvent de dire « pourquoi vous me l'avez envoyé ? Je ne suis pas concernée ». Ça m'amuse. Bon, j'ai fait ça une fois avec un homme politique aussi, qui, du coup, il m'a envoyé son livre, et il n'y avait pas de féminisme dedans non plus, d'ailleurs. Bon, mais ceci dit, donc, je trouve que c'est très, très important, cette notion que invisibiliser les femmes, c'est invisibiliser la moitié des travailleurs, la moitié des migrants, la moitié de... Bon, mais c'est pas seulement ça, parce qu'être un travailleur ou une travailleuse, en même temps, c'est pas la même chose. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent à l'intérieur de cette idée-là. C'est donc cet aspect-là, on n'est pas une travailleuse comme on est un travailleur. il y a des aspects semblables, il y en a des différents. On n'est pas sans papier, donc une personne immigrée sans papier, un clandestin qu'une femme clandestine, bon, ce sont des aspects différents que d'ailleurs, en tant que féministe, on a relevé notamment en faisant un groupe qui s'appelait le Colfen, c'est-à-dire qui s'occupait des femmes sans papier, mais des femmes sans papier, parce qu'effectivement, il y avait des dimensions qui n'existaient pas pour les hommes, comme ils en ont aussi effectivement, qui ne concernent pas les femmes et qui sont des autres difficultés. Donc ça me paraissait tout à fait important. Alors, ceci dit, maintenant, la langue française, comme elle est là, comme elle existe, et avec les tentatives qu'on fait du côté féministe, et surtout au Canada, de changer la langue sur tous les métiers, etc., on croit que c'est quelque chose de révolutionnaire qui se passe en ce moment parce qu'on est féministe et qu'on veut que ça change et qu'effectivement, on rentre dans tous les métiers, qu'il n'y a pas de raison, on n'est pas acquis, etc. Et alors, dans ce petit agenda de l'Université des femmes, qui est vraiment une source de beaucoup de choses, il y avait, donc la fille qui a travaillé là-dessus, elle reprend des métiers du Moyen-Âge, et alors nous trouvons une gantière, une savetière, une saussière, une tapissière, une champenière, une boursière, il y en a d'autres, là encore, une autrice, une libraireresse, une jugesse, enfin bon. Donc, il y avait des métiers au féminin. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, pas seulement le nom de ces métiers nous a été retiré, mais le métier lui-même aussi. Mais ça, il faut évidemment faire des recherches historiques que je n'ai pas faites. Mais bon, on se dit, tiens, avant qu'il y ait de nouveau une femme juge, il a fallu du temps. Eh bien bon, à cette période-là, il y en avait. Donc ça, c'est donc le premier temps. Donc invisibiliser les femmes, c'est vraiment donc pas reconnaître cette moitié de l'humanité. Et je pense que c'est quand même important et quelque chose que nous devons travailler et qui est difficile. C'est difficile parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors il faut marquer travailleurs et travailleuses. Bon. Il y en a qui disent « Oh, ça fait trop ». Moi, j'ai une fois renvoyé un texte en disant « Bon, on m'a répondu « Oh oui, mais alors c'est plus long ». Et j'ai calculé, ça faisait 4 mots. Alors, j'ai trouvé que quand même, l'argument n'était pas très positif. Hein. Donc, voilà, sur une page, 4 mots. Donc, je veux dire que c'est une habitude à prendre et à se prendre aussi, parce que ce n'est pas évident. Pour l'anecdote, je vois que nous étions tous égaux. Et pas tous et tout égaux. Comme ça, pour m'amuser hein, dans le truc. Mais je veux dire que moi aussi, je le fais. Je veux dire qu'il faut vraiment mettre dans sa tête de le faire et que ce n'est pas facile. Et alors, ce qui n'est pas facile, évidemment, mais ça, on peut peut-être revenir après, mais c'est aussi, mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Qu'est-ce qu'on ne va pas toujours répéter les mêmes mots? Et je pense, mais je ne suis pas sûre, moi, je le suggère ici dans un texte, mais... je pense qu'elle est canadienne d'emploi, mais je ne suis pas sûre, il faudrait que je vérifie, c'est au lieu de dire « il » et « elle », d'inventer un nouveau mot qui serait « il », donc « i, l, 2, l, e, s ». Donc un morceau de « il », un morceau de « elle » et le « s ». Et en le disant clairement, tout d'un coup, on met les deux sexes en présence. Et alors, on peut éventuellement mettre, l'adjectif au masculin, parce qu'on ne peut pas tout jouer. Enfin, je ne sais pas, mais il faut penser ensemble, sans doute, à transformer la langue de façon à ce qu'on ne rentre pas toujours en guerre pour dire qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas toujours victime de l'oubli. Et ça, je trouve que c'est important. C'est important à un moment donné. D'ailleurs, il faut le faire quand on se plaint. Il ne faut pas se plaindre, il faut le faire avec colère. Comment ça se fait que... Hein, et pas dire, ah, vous avez encore oublié, non. Donc, je pense qu'il y a une dynamique à mettre en place. Et bon, je pense que je peux m'arrêter là pour le moment.
Et que penses-tu, par exemple, de la règle de proximité qui était une règle qui était en usage jusqu'au 15e siècle? Donc, oui, 15 ou 16e siècle, et qui consiste à accorder l'adjectif épithète au nom commun qui est le plus proche. Par exemple, de dire « les hommes et les femmes sont belles », mais on dirait « les femmes et les hommes sont beaux ».
Je ne sais pas, on pourrait, je ne sais pas, je n'y ai pas pensé. En tout cas, c'est beaucoup mieux que la langue qui existe maintenant, qu'on relevait et qu'on dit « ces fillettes et ce chien sont joyeux ». Hein, y a un chien, il y a 10 fillettes, mais ils sont joyeux, quoi. Hein, donc, même le chien domine, quoi. Hein, donc, je sais pas, je pense qu'on devrait un peu jouer ensemble pour savoir... je sais pas, on pourrait faire ça, oui, effectivement.
Moi, ce qui me semble intéressant, enfin, dans ce que tu dis, c'est que déjà, l'intention des gens qui écrivent, tu le soulignes parfois sans le vouloir... En écrivant, on oublie des personnes. Mais aussi, moi, je me disais, ça fait référence à un autre article que j'ai lu en préparant cette émission-ci. Donc, merci à Cécile qui avait envoyé plein de documents. Merci à Chloé qui avait fait des recherches aussi. Où, en fait, effectivement, quand on reçoit des textes, en fait, ça nous travaille au niveau des représentations. Donc, c'est aussi les personnes qui ont la capacité d'écrire qui nous oublient. Mais nous, qui recevons les textes, on finit par s'oublier aussi. C'est à deux niveaux. C'est entre les gens qui ont le pouvoir d'écrire et les gens qui reçoivent. Il y a deux oublis des représentations mentales qui se font, quoi.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, Hélène, moi, je trouve ça tout à fait vrai parce que... Personnellement, je dois vraiment faire un effort pour mettre le « il » et le « elle », pour mettre justement, par exemple, les travailleurs et les travailleuses, parce que j'ai tendance à me censurer moi-même en me disant, effectivement, les gens vont trouver ça trop long, ou ça ne va pas, ou c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, soi-même, on se censure parce qu'il y a cette pression d'une langue officielle, finalement.
Oui, et c'est vrai que moi, c'est un sentiment que je connais aussi, de m'auto-censurer, et j'aime bien ce que tu disais, Fanny, de dire... Mais, on ne doit pas toujours le présenter dans l'affrontement, pour dire vous nous avez oublié. Parce que je sens, moi, que quand je m'auto-censure et je ne dis pas les travailleurs et les travailleuses, c'est parce que je n'ai pas envie toujours d'entrer dans cet éternel débat qu'on me dise « mais enfin, on sait bien que les travailleurs comprennent les travailleurs et les travailleuses ». Et donc, j'aimerais qu'on puisse trouver une solution qui conviennent à tout le monde et que tout le monde se sente apaisé et ne se sente pas, méprisé ou que ce ne soit pas un affrontement perpétuel.
Et qui te dit « on sait bien » ? Est-ce que c'est indistinctement des hommes ou des femmes ou c'est plus...
Je suppose que c'est principalement des hommes, mais c'est, je pense aussi des femmes. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui disent aujourd'hui... Mais c'est bon, l'égalité des genres, on y est arrivé. Pourquoi est-ce qu'on aurait encore besoin de faire tout ça ? On sait bien que le masculin, c'est un masculin générique. Alors qu'en effet, il invisibilise la moitié de la société. Et quand les femmes veulent pouvoir parler d'elles, elles doivent le faire au féminin. Alors que les hommes peuvent utiliser cette forme qui est tant la leur et tant soi-disant neutre.
Moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est ce que ça cache aussi. Hein. Donc, on cache donc les femmes, mais des fois, d'une façon... Des fois, c'est surprenant, d'ailleurs. Même des gens de bonne volonté qu'on peut retrouver, mais pas très souvent dans ce livre, et donc que j'avais relevé, il y a notamment des singuliers, donc comme le chômeur, le travailleur, l'employeur, l'ouvrier, etc., le citoyen, et on ne sait jamais si les femmes sont dedans. Hein. Mais il y a encore mieux parfois. Et j'ai eu relevé donc parmi les dominés, dans la parenthèse, prolétaires, immigrés, femmes, etc. Oh, tout d'un coup, on se dit, tiens, les femmes, est-ce qu'elles sont toutes dominées ? Mais oui, apparemment, oui, toutes les femmes sont dominées, mais est-ce qu'elles sont prolétaires ? Est-ce qu'elles sont immigrées ? Est-ce qu'elles sont travailleuses ? Ça, on ne sait pas. Donc voilà, tout d'un coup, on met femmes. Et ça arrive souvent. On met femmes.
Une catégorie à part.
Oui, pour dire qu'on ne les a pas oubliées. Mais. Bon, tout ça pour ne pas dire qu'il y a des hommes et des femmes parmi les migrants, qu'il y a des hommes et des femmes parmi les travailleurs, tout d'un coup, ou parmi les dominés. Mais nous, on n'est pas toutes dominées. Donc, on n'a pas besoin de cet aspect-là des choses.
Super. Et bien, sur ces réflexions, on va passer à une petite pause musicale. Rebonjour, nous sommes toujours avec Elles en parlent encore sur Radio Panique 105.4 et nous allons continuer maintenant en parlant d'un ouvrage qui est sorti en 2010 intitulé La langue des filles, le roman de l'apprentissage linguistique du féminin, dans lequel l'auteur se donne la mission de débusquer sous les mots la permanence d'un destin au féminin.
Voilà, donc effectivement cet auteur qui est François Zweck et qui est maître de conférences du département art et communication langage de l'université de Nice, Sophie Antipolis, comme ça on sait qui a écrit ce livre. Elle part du point de vue d'une petite fille, Ziza, qui découvre l'univers sexué et qui se pose des questions et comprend qu'elle est amenée à avoir un certain langage, une certaine attitude qui font qu'elle... qu'elle se comporte bien en tant que fille, enfin c'est ce qu'on attend d'elle en tant que fille, et comment est-ce qu'elle va se construire en tant que femme par rapport à ça. Alors donc, c'est centré sur le langage, mais c'est aussi centré sur les attitudes, la gestuelle. Donc j'ai relevé des petits exemples qui m'ont parlé. Voilà, d'abord, elle fait le constat qu'elle a un prénom en A. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais les prénoms en A, c'est typiquement féminin.
C'était très à la mode il y a quelques années.
Voilà. Alors, elle découvre en français, oui, on parle du français évidemment. Elle découvre des exemples, par exemple, d'outillage et de matériel qui apparaissent typiquement masculins. Quand elle voit donc une publicité, enfin, c'est la couverture du catalogue outillage et matériel, et qu'elle lit un harnais textile, 8 points d'ancrage et molette de serrage renforcée d'une basane en cuir antitranspirante. Voilà, pour elle, pour cette petite fille, c'est un petit peu le langage inconnu. Et c'est vrai que le langage technique est souvent quelque chose qui est assimilé au masculin. Donc, autre chose aussi, le rose. Dans le rose, on le sait, le rose, c'est pour les filles. Il y a des petites expressions que je trouve savoureuses. Effectivement, on dit peindre la vie en rose, ça veut dire, dit l'auteur, tricher, maquiller. Voir la vie en rose, bien, on se dit c'est être niais et crédule. Tout ça, c'est typiquement associé à quelque chose de plus féminin dans les histoires à l'eau de rose. J'aime bien quand elle dit « La vérité sur le rose éclate dans l'invective « Envoyer quelqu'un sur les roses ». Donc, c'est pas si doux que ça, le rose, finalement. Donc, attention. Donc, et alors, elle dit aussi qu'elle sourit en pensant que la rosette de Lyon, c'est un saucisson. Donc, ça, c'est aussi assez savoureux, je trouvais.
Ah, il y a la rose des vents, ça peut être chouette.
Donc, pareil pour les voix. Les voix des femmes... quand elles sont haut perchées, quand elles sont aiguës, il y a quelque chose d'affectif, de plaintif, qui fait pas sérieux, qui fait émotionnel. Et donc, dans les débats, il y a toujours les femmes qui sont, donc c'est toujours l'auteur qui dit, qui ont du mal à se faire entendre, alors que les hommes ont une voix grave, posée. Et donc, dans les émissions radio, la petite fille, elle entend que les femmes qui ont des voix graves... et qui n'ont pas d'émotion dans la voix, ben voilà, tout de suite, ça fait plus sérieux, comme des émissions de France Culture, où ici, on sait, on a déjà entendu des voix, enfin, moi, ça me parle, en tout cas, sur Musique 3, hein, où on se dit, oh là là, c'est sérieux. Donc, voilà. Alors, d'autres expressions, évidemment, que tout le monde a déjà entendues et qui sont significatives. Il faut souffrir pour être belle. Il y a une sacralisation de la chevelure féminine. Être femme, c'est évidemment avoir des cheveux et s'en occuper. Donc, si possible, qu'ils soient longs et abondants. D'ailleurs, dans le langage symbolique amoureux, on dit qu'on se coupe une mèche. La jeune fille se coupe une mèche pour l'offrir à son amoureux. Ou alors, on a une mèche rebelle. Elle cite aussi la mèche qui dépasse du voile des iraniennes comme un geste, donc qui ont voilà, comme un geste de rébellion. Alors que pour les hommes, c'est la barbe et la moustache qui symbolisent le pouvoir, la tranquille virilité, et donc dans l'expression qui s'y frotte, s'y pique. Là, ça fait tout de suite, ça pique, donc il y a quelque chose de, ça rappelle quelque chose de dit viril. Elle parle aussi de la poitrine. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de citations qui sont assez datées. Des citations comme Baudelaire, évidemment, et tout ça. On ne s'étonnera pas qu'elle soit machiste. Par exemple, Jacques Brel aussi. Donc, dans une de ses chansons, Knok le Zout, en parlant des femmes, elles compenseront leur maladresse à coups de poitrine et de fesses. Donc, ou elles ont l'arrogance des filles qui ont de la poitrine. Donc, la poitrine, c'est quelque chose qui est mis en avant. Et à la limite, ben voilà, on voit que ça, et le discours derrière, et là, ce que dit la femme, voilà, ça passe au second plan. Et donc, et en même temps, il y a une délicatesse qui est associée au féminin. Donc, voilà, Ziza découvre une vidéo sur Internet. Et c'est... une femme ne peut pas dire des gros mots. Hein, quand on fait chier dans la bouche d'une femme, ça ne va pas. Enfin, ça, maintenant, voilà, c'est peut-être plus... actuellement, c'est peut-être possible. Mais bon, il y a quelque chose qui reste quoi, de ça, quoi, je trouve. Enfin, même si ça
dans
change.
La graduation des voilà. Insultes, oui.
Oui, c'est ça. Donc, alors, j'essaie de ne pas être trop longue. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples qui sont très sympas. Au sujet de l'amour, Édith Piaf. Elle cite Édith Piaf, forcément. Et moi, je n'ai jamais aimé personnellement Édith Piaf pour ça, parce qu'effectivement, il y a un excès dans la passion amoureuse. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer, la terre peut bien s'écrouler, peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Bon, ça, ce n'est pas le pire, mais je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. Bah, c'est typique de la femme qui se sacrifie pour son homme. Pardon ?
Ça, ça date.
Oui, tout ça, ça date. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'exemples qui datent. Mais bon, voilà, c'est des... on passe encore sur les ondes, Édith Piaf, Jacques Brel. Et quand il n'y a pas... il y a beaucoup de gens encore qui aiment. Et je trouve que quand il n'y a pas quelque chose de critique qui vient dire... une parole critique qui vient dire « Ah, ben, quand même, ce qu'il voulait dire, c'est quand même... » Enfin, quelque chose de très sexué là-dedans et de très stéréotypé sur les rôles des hommes et des femmes. Je trouve qu'on n'y prête pas attention et on entend ça comme ça. Enfin, voilà, personnellement. Mais c'est vrai que ça date, pour ce que je dis. Donc, je terminerai en disant juste un autre exemple qui me parle. Les prostituées, qu'on appelle des filles, bah ça c'est typique aussi. Voilà, les prostituées ne sont pas des femmes, sont des filles. Et ça, on entend encore très très souvent.
Ils ne sont pas des hommes.
Mais il y a des prostituées hommes.
Et justement, mais donc, on a les prostituées qui sont des filles.
Voilà, effectivement, ça implique que ce ne soient pas des hommes et qu'elles sont... ce sont évidemment en majorité des femmes, mais il y a des hommes aussi. De toute façon, voilà, les appeler par le terme « fille », je trouve ça pas...
Et pour le coup, c'est juste l'inverse, ça exclut, ce terme des filles exclut une autre réalité qui est cachée, qui voilà.
Mais voilà. Pourtant, je voulais dire, on est avec un groupe de copines et on dit aussi, allez les filles, on y va. Je pense que, on ne pense pas à des prostituées à ce moment-là quand même. Hein, c'est des copines, on dit, les filles, on y va. Moi, ça m'arrive là, les copines qui étaient, allez où les filles, bonjour. Donc je pense que
oui, bien sûr, mais là ça n'a pas la même connotation officiellement, même dans des articles de presse. Parfois, on parle de filles en parlant de prostituées, qui sont.
Si je peux ajouter juste quelque chose, je trouve que on va quand même pas nier toute la littérature, tout ce qu'il y a eu comme livres, comme chansons, etc. Où effectivement, on va pas voir apparaître et on va pas lire Proust en se disant oh là là, il a oublié de mettre les hommes et les femmes et des trucs comme ça. Il faut rester dans une réalité qui est celle que aujourd'hui on veut notre place et on veut être reconnu. Sans nier tout de même tout ce qui a préexisté et qui nous fait quand même des émotions et qu'on aime bien de
bien
lire.
Sûr.
On ne va pas ici, se dire, tiens, il est sexiste. Voilà. Bon, moi, je sais qu'il y a des auteurs que j'aime bien, des chanteurs que j'aime bien d'entendre. On pourrait, je ne sais pas comment je pense à... ça ne me revient pas maintenant, mais bon, il y a des auteurs que j'aime bien. Bon, évident que je trouve leurs chansons toujours dans la ligne féministe. Hein, pas du tout. Bon,
je suis d'accord avec toi, mais je pense... pour moi, en tout cas, c'est problématique, disons, quand, par exemple, les chansons de Piaf restent l'idéal d'amour auquel tout le monde devrait tendre. Alors, là, dans l'imaginaire des uns et des autres, c'est là que ça reste problématique.
Et c'est vrai que c'est des chansons qui datent, mais qui restent. Et moi, je suis très étonnée de ce que mes filles connaissent comme chansons de l'époque de ma maman. Et parce que moi, je pensais qu'effectivement, elles allaient, comme moi, prendre juste la génération avant moi et puis la leur. Et encore, je pensais qu'elles allaient penser que les chansons de ma génération étaient vieilles et n'étaient pas dignes d'intérêt. Et en fait, étonnamment, eh ben oui, elles connaissent un répertoire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancien.
Et puis, ça, rien n'empêche d'avoir des émotions sur ces chansons et de les écouter, mais juste de savoir que voilà, parce que sinon, effectivement, je pense que ça marque, ça reste et que ça... Et c'est intéressant, en tout cas, juste de le nommer, quoi, juste de le nommer sans le renier, voilà. C'est ça que... j'ai pas senti une négation de la part de cet auteur-là, en tout cas, mais simplement de pointer tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai que j'avoue qu'il y a beaucoup d'exemples qui sont datés. Donc voilà. C'est...
Et on a également lu un article qui nous montre que la différence masculin-féminin, elle n'existe pas seulement dans la langue parlée, mais également dans la signalétique, notamment urbaine. Et ça témoigne d'un degré de sexisme certain.
Oui, en fait, moi, je n'y avais pas pensé du tout au pictogramme, j'avoue. Je n'avais même pas vu. Voilà. Et donc, du coup, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, tiens, mais mon Dieu, c'est vrai, je vais regarder. J'ai fait une petite recherche, pictogramme, homme, femme, couple, famille. Enfin, j'ai cherché comme ça sur Internet. Et ben oui, j'ai vu quand même des choses assez étonnantes. Donc... Du coup, on s'est mis à regarder les signalétiques pour aller aux toilettes différemment de comment on représentait les toilettes hommes et femmes et tout. Donc, en fait, en gros, comment représenter un homme, comment représenter une femme pour que tout le monde comprenne et sans pour autant montrer les organes sexuels. Voilà, on va pas... ça ne se fait pas dans un lieu public. Voilà. Donc, du coup... qu'est-ce que les personnes font ? Le plus simple, finalement, c'est de mettre une jupe aux filles. Et ces jupes aux filles, vous voyez, on dit filles, pas femmes, c'est un espèce de triangle. Donc, ça ne fait pas de carrure aux femmes. Ça fait des femmes toutes frêles de représenter ces... Enfin, dans certaines signalétiques, j'imagine que vous voyez bien, c'est un triangle. Donc, elles n'ont pas d'épaules, mais par contre, l'homme a bien ses épaules, lui. Maintenant, parfois, j'ai bien rigolé parce que j'ai vu des signalétiques où le triangle était juste renversé pour l'homme, en fait. Et alors, je me suis dit, bon, bah, triangle pour triangle, peut-être que c'est plus égalitaire, j'en sais rien. C'est en tout cas des triangles. Et puis, alors, effectivement, dans cet article, il disait que la taille n'était pas toujours égale. Alors, quand, effectivement, les personnes sont l'une à côté de l'autre, c'est la taille égale. Mais parfois... parfois pas, en fait. Parfois, les femmes sont représentées légèrement plus petites aussi. Voilà. Ouais, non, c'est rigolo, je m'en doutais pas. Enfin, voilà. Et donc, il y a cette histoire de taille, cette histoire d'épaules qui sont de toute façon plus larges chez les hommes, même quand ce n'est pas un triangle chez les femmes. Il y a l'apparition parfois des cheveux qui, évidemment, sont longs quand on va indiquer que c'est le côté là où les femmes doivent aller. Dans les signalisations du code de la route, si on représente deux enfants qui jouent ou le passage de personnes, ça va être le garçon ou l'homme qui tient l'enfant. C'est pas la grande sœur qui tient le petit frère, mais c'est plutôt l'inverse qui est représenté. Et alors parfois, on croit bien faire, je ne sais pas, on veut sortir des pictogrammes traditionnels et basiques, et on se met à représenter les femmes alors carrément avec des formes, je dirais, poitrinesque et sans, pratiquement sans taille. Je pense que en tout cas, moi, je me suis dit que c'était encore pire que mon triangle pour dire qu'il y avait une jupe.
Ça représente des canons de beauté tout à fait particuliers et tout à fait spécifiques à notre époque. Ben, on va ouvrir l'œil dans nos balades bruxelloises.
Mais
je n'ai
pas fini parce que du coup, je me suis dit, mais ça, pristi, c'est typiquement ce qu'on trouve dans les livres pour enfants, en fait. Je me suis dit, mais c'est pile la même chose où les filles sont de nouveau représentées pour qu'on soit bien sûr que c'est une fille en robe, ou effectivement, pour être sûr que c'est des filles, elles vont être coiffées souvent avec de longs cheveux. Je me suis dit que ces stéréotypes, on se les prenait malgré tout dans notre quotidien et dans le quotidien des enfants.
Je pense aux sorties de secours, par exemple dans les tunnels. Où
oui.
Ce sont des personnages qui sont plutôt
masculins. Oui, j'ai oublié de dire ça.
Est-ce qu'on imaginerait que si jamais on mettait une jupe ou d'une autre façon, que les hommes risqueraient de ne pas trouver la sortie?
Non, mais c'est vrai. En fait,
je dirais, alors si on mettait un pictogramme féminin, c'est comme si on ne voudrait pas que les hommes s'en sortent, tandis qu'on met un pictogramme masculin et comme femme, on est habituée depuis notre plus tendre enfance à nous mettre dans le « il », en fait. Et si on devait mettre des pictogrammes... Et alors, si on devait en mettre deux, on dirait « mais c'est quand même idiot, on comprend ce que le signe veut dire ». Mais il y a derrière cette neutralité-là...
Oui, et puis en cherchant aussi sur mes pictogrammes, c'est vrai, j'ai complètement zappé d'en parler, mais Donc, les pictogrammes, quand il n'y en a qu'un seul, c'est les hommes. Mais alors, il y a aussi tous les pictogrammes qui sont par rapport aux travaux de voirie et tout ça. Et là, évidemment, aussi, que c'est des hommes qui sont représentés. Alors, bah, bien sûr, on va me dire que c'est principalement des hommes. Oui, mais si on coupe l'imaginaire de pouvoir faire autre chose, ça ne changera jamais. Si on, les pictogrammes de sportifs aussi, là, on peut nager, bah, c'est... Enfin, c'est systématiquement des hommes qui sont représentés comme leur masculin en portion féminin dans la langue française.
Exactement. Et donc, tu voulais rajouter.
Oui, je voulais ajouter parce que j'ai vu, me semble-t-il, encore pire pendant tout un temps. Je ne sais pas si ça a changé, mais alors qu'on voit dans les toilettes, il y a deux grandes. On a ça parfois sur l'autoroute, deux grandes entrées. Maintenant, ça a un peu changé. Mais au début, je me souviens que ça m'avait fort marqué. Alors, il y a femmes et handicapées, et de l'autre côté, il y a hommes. Comme si les handicapés, qu'ils soient hommes ou femmes, c'est à nous de nous en occuper. Ça, c'était vraiment. Alors là, ça allait. Ça devenait vraiment fort, quoi.
Comme le coin change.
Oui,
oui. Comme mais je pense que ça a un peu changé, peut-être. Maintenant, on le trouve des deux côtés. Mais pas toujours.
Non, pas toujours. Pas toujours. Et puis, je sais, aussi quand. Enfin. C'est, je trouve qu'effectivement, les choses ne se retournent pas toujours. Et. Je pense aux piscines aussi, quand c'est une mère qui s'occupe des enfants, quand c'est un père qui s'occupe des enfants. Et c'est beaucoup plus compliqué de prendre sa petite fille du coin. Il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait équilibrées, je dirais. C'est clair.
Et donc, on le voit bien, le masculin continue à l'emporter. Et on a déjà parlé dans la langue de la règle de la proximité, mais il existe d'autres solutions. Et Nicole, tu vas nous présenter une alternative originale.
Merci Chloé. C'est effectivement une alternative que je voulais proposer et qui est toute simple. Et je m'étonne du temps que j'ai mis à y penser. Je ne sais pas. C'est de dire que pour les garçons et les hommes, on garde la règle masculin l'emporte sur le féminin. Pour eux, il n'y a rien qui change. Mais pour les filles et les femmes, c'est juste l'inverse. Le féminin l'emporte sur le masculin. Et donc, depuis qu'on est petit, on apprend chacun à, quand on a besoin de parler des autres en général, ce qui peut quand même arriver, et de ne pas devoir dire les travailleurs et les travailleuses, mais que pour les filles, elles apprennent depuis toute petite à dire les travailleuses et que les travailleurs se sentent inclus dans les travailleuses quand c'est une femme qui parle. Je trouve intéressant de faire ça à la troisième personne du pluriel quelque part, parce qu'on va me dire « Ah mais non, ça ne va pas, parce que alors les hommes et les femmes parlent différemment. » Mais quand on dit « je », « suis belle », on sait que c'est une femme qui parle. Si je dis « les hommes et les femmes sont belles », on va savoir que c'est une femme qui énonce cette phrase, et donc la trace du locuteur restera présente, y compris dans la description du monde. Et pour moi, ça va donner aux femmes plus de puissance sur le langage. Ça nous met d'équerre avec le langage, en fait. Parce que moi, ce que j'ai vécu comme petite fille quand j'ai dû intégrer cette règle, c'est justement cette espèce de doute dont Fanny parlait au début. Y suis-je, n'y suis-je pas, l'homme avec un petit H, un grand H, etc. Et toujours, ça nous déporte. Et personnellement, plutôt que le « il » canadien, qui me fait un peu penser à espéranto, je préférerais me dire, au fond, adoptons pour nous, les femmes, la règle que les hommes se sont choisis. Elle n'est pas si bête pour eux-mêmes. Et je pense que si on prenait l'habitude de parler au féminin et d'être entendu comme ça, sans que ce soit perçu comme une agression, on resterait centré, comme les hommes peuvent rester centrés dans le langage. Et alors, le deuxième petit aspect de cette règle, c'est qu'avec le mot « homme » avec un grand H, c'est aussi une difficulté. Et je trouve qu'alors, les femmes, elles utiliseraient « femme » avec un grand F. Et les hommes se sentiraient invités dans le mot « femme » avec un grand F, comme les femmes peuvent se sentir invitées dans le mot « homme » avec un grand H. Mais donc, comme locutrice et comme femme parlant du monde, la langue nous permettrait de rester centrée sur la part sexuée de notre identité. Donc moi, je propose cette règle plutôt que la proximité, de dire que pour les hommes, le masculin l'emporte sur le féminin, et pour les femmes, le féminin l'emporte sur le masculin.
Mais est-ce qu'alors ce serait une erreur grammaticale si une femme décidait de parler au masculin qui l'emporte, ou si un homme décidait de parler au féminin
chacun,
qui l'emporte?
D'abord, avec la langue, je trouve qu'on fait ce qu'on veut. C'est vrai qu'en français, beaucoup plus qu'en anglais, il y a l'espèce du gros doigt de l'académie. Et d'ailleurs, j'ai remarqué ça en lisant un livre de Richard Horty, qui, en anglais, choisi d'utiliser le féminin, et ça se fait maintenant de plus en plus, donc « he » et « she » au lieu de dire « l'un et l'autre », par exemple. Donc, il opposait la figure du métaphysicien et de l'ironiste, par exemple. Il parlait de l'ironiste en disant « she » et du métaphysicien en disant « he ». Et j'ai relu plein de fois, parce que la première fois que j'ai lu ça, je me dis « mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. C'est qui ce « elle » etc. » Et puis, j'ai compris que c'est ça qu'il voulait faire. Et je me suis précipitée sur la traduction française de ce livre. Et là, j'ai vu qu'il y avait... à ce chapitre, tout est « il ». Et puis, il y avait une note du traducteur au début qui disait « dans la langue française, on ne peut pas faire ça ». Je me suis dit « c'est drôle, parce que c'est quand même pas très compliqué, s'il y a bien une chose dans la traduction entre « i » et « chi » et « il » et « elle ». Et il ne s'était pas senti autorisé à poser ce geste pour montrer comment on est enfermé dans nos têtes avec ces règles. Et comment on a intériorisé ce, voilà, cette orthodoxie dans la façon de parler. Et même moi, maintenant que j'essaye de... Je voudrais pratiquer cette règle pour moi-même, mais c'est très difficile à s'habituer. Mais je trouve que, en tout cas, en termes de logique, elle est simple. Je ne vois pas au nom de quoi elle serait pas bonne. Voilà. Donc, ce serait ma proposition. Et on s'habituerait. Et puis après, si quelqu'un veut parler au masculin, il peut. Parce que c'est comme Colette qui a choisi... À un moment donné, des femmes, pour se faire entendre, ont choisi des noms masculins. Bon, puis c'est leur liberté. Et même si c'est pour une autre raison, chacun est libre de ça. Moi, je veux enfermer personne. Je trouve que l'égalité, ça doit toujours être un plus de liberté et pas un moins de liberté. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien pouvoir parler au féminin du monde.
Tu veux réagir ?
Oui, je réagis parce que je me dis, mais oui, mais à quel moment sait-on qu'on est seul ? Je veux dire que, bon, si par exemple je mets une phrase, bon, pour parler des travailleurs, je dis travailleuse, moi je ne sais pas si je parle que des femmes, ou s'il y a parmi nous des femmes et des hommes.
Bien sûr, mais si c'est toi qui le dis, du moment que tu ne sais pas, tu dis travailleuse et ça inclut les hommes. Puisque...
Mais pas forcément, mais parce que parfois il n'y en a pas.
Mais... Ah ben s'il y en a.
Ah oui. Je veux dire que des fois,
si tu veux garder, il faut
choisir.
On peut pas tout vouloir. Oui, mais si on veut différencier.
Justement, moi, je voudrais tout vouloir.
Oui, mais alors ça, personnellement, la volonté de m'identifier juste quand je suis entre nous femmes cède le pas devant la volonté de pouvoir rester centrée quand je parle du monde. Donc, personnellement, après, on pourrait trouver comment on fait quand on veut dire qu'il n'y a que des travailleuses. C'est vrai que le confort de la situation actuelle, c'est que quand on dit des travailleuses, on sait qu'on ne parle que de femmes. Mais si c'est un privilège qu'on apprécie, alors on ne se plaint pas du masculin générique. Parce que ça fait...
Pourquoi ?
Mais attends, moi je trouve que si tu fais ce... Je préférerais pouvoir dire que quand je dis les travailleuses, les amis, que je reste au féminin, on ne me fasse pas, on ne me reprenne pas tout le temps en disant « Oui, mais est-ce qu'il y a des hommes ?» Oui, mais ben, je dis « Oui, peut-être ». De ne pas rester obsédée par cette question, donc je me sentirais plus libre.
Enfin, moi, personnellement, je dois dire que je ne suis pas tout à fait sur cette ligne-là, parce que je ne veux pas être obsédée non plus ni par le masculin ni par le féminin. Je suis une personne, je considère que, bon, être femme, effectivement, ça représente certaines choses, mais que dans... Je ne sais pas, je voudrais quand même non pas que les femmes disparaissent, il y a peut-être des différences, mais que globalement, dans le monde, on ne soit pas forcément à chaque fois différencié, tout en étant présente dans la langue, dans le texte. Par exemple, dans les métiers, bon, j'entendais auteur, par exemple, eh bien, quand on parle d'auteur, est-ce qu'on dit auteur ?
Ah oui, moi je l'écris toujours, auteur.
Oui, mais non, mais il faut l'entendre.
Voilà, mais tout à fait.
Non, mais il y a un petit texte là où, d'ailleurs, j'ai joué une fois avec sculpteur, parce que j'étais dans un atelier sculpteur, on peut s'arranger pour que le E muet s'entende. Comment faire ? Mais il faut le faire, il faut dire une auteur et allonger. Je pense que c'est moi, personnellement, plutôt dans ces jeux-là, des métiers qu'on doit arriver à dire ingénieur. Et alors, moi, je voulais juste dire un mot. Et il y a des réticences aussi du côté des femmes à changer. Je me suis amusée un petit peu à regarder ici dans ce livre-là. Bon, il y a beaucoup plus... quatre fois plus d'hommes que de femmes qui écrivent des articles là-dedans.
Juste, c'est un livre qui s'intitule « Les nouveaux mots du pouvoir », coordonné par Pascal Durand.
Donc à chaque fois que Fanny se fâche sur le livre, c'est celui-là. Et à chaque fois qu'elle cite des exemples,
c'est le...
Non, Fanny, c'est juste pour que ce soit clair. Parce que parfois tu parlais de ce livre-là, puis tu lisais des articles de l'agenda.
J'aurais pu aussi d'autres. Mais bon, j'ai pris celui-là parce que j'avais un petit peu travaillé dessus et que j'avais peu de temps, j'ai pris celui-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, autour de... Comment dire, les femmes elles-mêmes, j'ai relevé que soit l'identité professionnelle n'y était pas, mais quand il y était, les doctorantes se disaient doctorantes, et puis il y en avait une qui disait docteur, mais au masculin, et une qui disait auteur au masculin.
Mais justement.
Donc, je voulais. Non, mais je oui. voudrais finir. On dirait quand même que même. J'aime cette résistance que je voulais parler. On dirait que même les femmes ont peur qu'en se rend, en mettant leur nom au féminin, tout d'un coup, elles soient dévalorisées.
Mais justement. Pardon de vous interrompre, mais c'est exactement ce point-là qu'il faut déraciner et faire évoluer. Parce que tant que, et ça s'appelait la loi Sullerot aussi, Evelyne Sullerot là, qui a dit que quand un métier se féminise, il perd de sa valeur. Et les raisons pour lesquelles les femmes, ceci, ça évolue aussi dans le bon sens. On parlait des choses athées. Maintenant, des femmes qui veulent dire Madame le ministre, elles paraissent complètement ridicules. Parce qu'on voit que c'est des femmes qui tiennent au masculin. Et pour qui assumer la plus haute fonction ou une haute fonction, madame la directrice, etc., directrice d'école, ça marche plus ou de moins en moins. Donc je pense que les femmes sont plastiques et peuvent évoluer là-dessus, comme les hommes sont plastiques, on est tous, c'est la condition humaine. Mais je trouve personnellement que le fait de prendre ce pouvoir sur la langue et de donner au féminin un statut équivalent au masculin dans la langue, à la première personne et à la deuxième personne, c'est déjà là. Quand on dit « je » et « tu », on reconnaît le sexe dans la façon de parler. Et donc, je pense vraiment que si on étendait cette reconnaissance et ce pouvoir de parler en restant centré sur soi-même à la troisième personne du pluriel, en tout cas, moi, je pense vraiment que comme petite fille à l'école, on m'aurait dit « les femmes parlent comme ça ». Et pour les femmes, c'est la règle, et pour les hommes, c'est la règle, l'inverse. En ce qui me concerne, je pense que ça m'aurait donné plus de pouvoir comme locutrice et comme... pour penser le monde, pas pour nous voir de l'extérieur, mais vraiment pour habiter sa parole.
Et j'avais une petite question aussi pour toi, Fanny. Quand tu dis donc, pardon, tu trouves intéressant de garder le pouvoir de dire, ben, les travailleuses, on sait qu'il n'y a que des femmes. Comment est-ce que, à l'heure actuelle, tu parles d'un groupe de travailleurs où il n'y a que des hommes ? Pour pouvoir, quand tu veux spécifier, qu'il n'est composé que d'hommes.
C'est amusant ce que tu me dis, parce qu'effectivement, il y a des hommes, à partir de justement ce petit machin qu'on peut trouver là-dedans, de ce petit article, qui disaient, oui, mais enfin, on ne sait jamais quand on est tout seul. Et je dois dire, je vais te dire quelque chose. Moi, je leur ai dit, bah, de trouver une formule. Je ne vois pas pourquoi on doit se casser. C'est assez récurrent, tout d'un coup, d'avoir, dès qu'on est dans l'avancée de quelque chose, on a les hommes qui nous viennent dessus en disant « Et moi, comment je vais faire ? Comment je vais savoir que je ne suis pas avec des femmes ?» quand on dit « il » au pluriel. Oh, je ne sais pas, moi je lui dis « invente ». Si nous, on va inventer, bah, qu'ils inventent. Je ne sais pas, il y a souvent cette impression de dès qu'on fait une avancée. Maintenant, je voudrais juste ajouter quelque chose, ça me paraît important. Je pense qu'on pourra être ingénieur de plus en plus souvent, parce qu'il y a de plus en plus de femmes ingénieures qui prennent des places importantes. Donc, je veux dire que les choses jouent ensemble. Ce ne sera plus, on ne devra pas avoir peur d'être une ingénieure. Pour être reconnue, on ne devra plus dire « moi, je suis une femme ingénieure sans eux ». Donc, je pense que c'est l'évolution aussi et l'exigence qu'on doit avoir. Mais effectivement, il y en a encore qui ne sont pas d'accord aussi. Mais allez, juste, si j'ai encore une minute. Je me souviens dans un groupe qu'on avait formé pour les sans-papiers. Je peux ?
Oui.
Pour les sans-papiers. Et alors, on avait fait ça, Association des voisins. Bon, nous étions... en majorité des femmes, dès qu'il y a du social et du bénévole, on le sait. Donc, on avait dit, mais pourquoi pas Association des voisins voisines ? Ah oui, c'est long. Bon, on a fait voter, et alors évidemment, les femmes ont gagné, on était majoritaires pour une fois, hein, on a joué sur la majorité pour nous. Et alors, mais ça a disparu quand même. Et c'était joli, parce que c'était beau, les voisins voisines, c'est quand même joli, plus joli que voisins tout court. Et alors, en abrégé, ça faisait AVV. Et puis c'est devenu AV, ça a disparu comme ça, comme par enchantement. Et c'est ce côté, on est trop lourde. Un voisin, voisine, ça devient trop lourd. Et on se demande pourquoi.
Ça pose la question de la place. On est trop lourde, on prend trop de place, alors que voilà.
Oui, mais en faisant tout ça, on passe beaucoup de temps à voir comment on est perçu par les autres. On est lourde, on est invisible et on ne prend pas sa place. Et ma proposition vise à prendre sa place.
Comment on ferait alors pour ça ?
Mais moi, j'ai l'impression, en fait, que c'est une question d'où on se place. En fait, et effectivement, On n'est pas encore dans une situation du tout d'égalité. Et c'est ça que la position de Fanny dit. On n'est pas à égalité, il faut que ces inégalités ressortent.
Mais la seule façon d'avancer, c'est comme disait, y a plein de gens qui ont dit ça, il faut vivre la vie qu'on veut changer. Donc si on veut, c'est pas qu'un jour on va se dire, tiens, on a la même place, c'est en l'apprenant. Et je pense
que c'est une question de posture.
Oui, de posture, mais au présent. Oui.
Tout en sachant qu'on prend sa place, comme tu me dis, on se heurte forcément à des résistances. Et donc forcément,
il y a des moments... Mais si on ne l'apprend pas, on ne sait pas. Il y a des moments, mais c'est ça, on peut être conscient de ça. Et quand tu dis toi-même, parfois les travailleuses-travailleurs ou même voisins et voisines, et moi-même, si je devais changer demain en demandant ma façon de parler, je ne voudrais pas devoir passer devant un peloton d'exécution quand je me trompe. Ce n'est pas ça, parce qu'on a, je vais sûrement utiliser encore du masculin à mauvais escient. Mais ça permet, je trouve, par exemple, sur l'association des voisines, effectivement, si c'est quelque chose... Alors, j'imaginerais que pour les affiches, que ce soit écrit, comme ça peut être proposé par des femmes et des hommes, on pourrait mettre voisins, /E/S, par exemple. Et quand c'est les femmes qui en parlent, pour elles, c'est les voisines. Et quand les femmes et les hommes en parlent, c'est les voisins. Et on sait qu'on parle de la même chose. Donc, ça, c'est simplement de vraiment donner sa pleine légitimité au féminin pour parler du monde, en général.
Moi, je trouve que c'est une solution assez séduisante pour revenir à ce qu'on disait tantôt dans le sens que ça peut enlever, réduire cet affrontement perpétuel qu'on peut ressentir dans la langue et qui nous permettrait peut-être de pouvoir envisager un avenir où la langue française serait aussi plus souple et plus... plus souple pour chaque individu de pouvoir se positionner au masculin ou au féminin selon l'activité, selon le moment, selon l'humeur éventuellement également.
J'appelais ça l'universel mixte et réversible. Et pour reprendre les deux très belles questions de Fanny, que quand on dit « il », un homme dit « j'y suis » et les femmes disent « y suis-je », effectivement, cette situation aurait une forme de réciprocité où quand on dit « elle », les femmes disent « j'y suis » et les hommes se disent « y suis-je ». Et c'est dans cette dualité et cette espèce de symétrie en forme d'ouverture que je trouve que j'aime bien le mot souple.
Et peut-être que dans ce que vous voyez... Pardon.
C'est pas grave. Je me disais que peut-être que dans le « y suis-je », les hommes pouvaient se poser la question de « y suis-je », peut-être qu'ils appréhendraient une réalité dans laquelle justement ils ne sont pas et qu'ils ne connaissent pas. Enfin voilà, peut-être. Peut-être.
Ça, c'est leur part du travail, comme vous disiez, chacun son boulot.
Oui, j'ai oublié. Mais je pense que cette formule peut être intéressante, effectivement, dans la mesure où... Oui, je ne sais pas, dans le langage, il faudrait voir. Je ne sais pas, je vais me l'essayer.
Oui, je pense c'est la meilleure solution.
Oui. Juste, il y a le temps, justement, par rapport au fait d'essayer, est-ce qu'au niveau concret, est-ce que tu envisages des choses écrites pour toi ou plus pour diffuser cette proposition?
Mais j'aimerais bien, j'ai accepté la proposition de venir parler ici parce que j'avais envie de présenter cette idée qui me semble comme un peu la lettre d'Edgar Poe, le truc évident auquel je n'avais pas entendu parler cette idée avant. Elle a peut-être été exprimée par d'autres ailleurs, mais moi, depuis que je l'ai eue en tête, elle me semble évidente. Et donc, j'ai envie de la partager pour voir après ce qui... Voilà, donc s'il y a des auditeurs qui trouvent ça intéressant, pour le moment, je n'ai rien fait. Il n'y a pas de site web, il y a un papier qui doit paraître dans, normalement, les publications de... Il y a eu les décades à Cerisy autour de Barbara Cassin, ça s'appelait Les pluriels de Barbara Cassin, et j'ai fait une contribution dans ce livre qui va paraître, mais pour le moment, voilà, l'idée vole, elle flotte. Et donc mon email, c'est nicole.dewandre@skynet.be. Si des auditeurs veulent rebondir sur cette idée, je vais voir ce que j'en fais.
Auditeurs et auditrices.
Bien sûr, mais tu vois, j'y suis pas.
Comme quoi.
Alors, vous auriez dû dire auditrice, alors.
Oui, c'est ça. Ou auditrice uniquement, je dois dire. Oui. Mais j'ai fait un petit mailing pour dire si vous voulez écouter l'émission. Et je dis, chers amis, et puis j'ai mis en parenthèse, les hommes comprendront qu'ils sont inclus. Et donc, on parle que quand on parle de soi au féminin pluriel, au lieu d'être excluante, et on te renvoie, oui, mais tu oublies les hommes, ben, je dis non, les hommes peuvent apprendre à se sentir invités en masculin, dans le féminin pluriel. Sinon, on doit toujours... toujours préciser. Et cette obligation de toujours préciser, elle ne pèse que sur nous, finalement.
Eh bien, sur cette belle conclusion, je vais conclure l'émission et remercier nos invités, Hélène, Fanny, Nicole et Alexandra. Et Martha à la technique et aussi tout le groupe de Elles en parlent encore qui a travaillé à la réalisation de cette émission. Juste vous dire aussi que l'émission sera rediffusée le premier mardi du mois à 19h et le troisième jeudi du mois à 8h. Dans pas si longtemps que ça, le fichier sera disponible sur le site de Radio Panique pour écoute ultérieure, ainsi que sur le site de Vie Féminine. Et vous pouvez suivre l'émission sur Facebook, un groupe qui s'appelle donc Elles en parlent encore. Et donc, si la proposition de Nicole concernant
Universel mixte et réversible.
Universel mixte et réversible vous intéresse, n'hésitez pas à entrer en contact avec elle. On mettra aussi son contact sur la page de cette émission d'aujourd'hui. Et passez une belle journée. J'espère que le temps va se dégager un petit peu. Et sur ces belles réflexions, pour un monde où on se sent tout en souplesse et où tout le monde est inclus.
Elle les confronte pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.